RMC, l'After Tour.
Christophe Cessieux.
Bonsoir à tous, bienvenue à Combloux, où le peloton du Tour de France et les suiveurs sont sans voix ce soir après la performance phénoménale, exceptionnelle, hallucinante, Jonas Vingegaard qui laisse donc le Tour de France sans voix ce soir, le maillot jaune, auteur de la plus belle performance de sa vie, et c'est un euphémisme, sur les 22 km du chrono de Combloux, et il a sans doute définitivement remporté l'édition 2023 de la Grande Boucle, 1 minute 38 d'avance sur Pogacar et près de 3 minutes sur Van Aert, troisième de l'étape. C'était tout simplement hallucinant. Vous l'avez vécu tout à l'heure sur RMC dans l'Intégral Tour.
Précédemment dans l'Intégral Tour sur RMC.
Une étape très courte avec à peine 22 km 400 à parcourir. Mais quels 22 km ! Terrible, avec notamment la côte de Domancy. Aujourd'hui, les coureurs se battent contre le chronomètre. Ça y est, les premières images de Rémi Cavagna arrivent sur nos écrans. Le maillot de champion de France du contre-la-montre.
Il est follement encouragé par les spectateurs. Tout le monde le reconnaît avec son maillot de champion de France. Là, il est à 13, 12, 13, 14 km heure. Rémi Cavagna, c'est très dur, mais il n'a pas l'air de coincer pour le moment.
Et la ligne pour Rémi Cavagna. 25 secondes de mieux, 24,80 exactement, meilleur temps donc devant Mats Pedersen. En voilà un vrai temps de référence. Rémi Cavagna qui
est en danger,
au troisième intermédiaire, Wout van Aert vient de passer avec un temps de 27 minutes 42, c'est-à-dire 2 secondes de mieux que Rémi Cavagna. Il s'arrache, il tire, il pousse Wout van Aert pour aller chercher le meilleur temps. Ça va être le cas assez facilement, 15 secondes de mieux que Rémi Cavagna, 35-27. Wout van Aert prend la tête de ce contre-la-montre et Rémi Cavagna dit au revoir à tout le monde. Il se lève du siège, il ne remportera pas cette étape. Voilà.
Tadej Pogacar, le plus grand coureur actuel, se trouve sur la rampe de lancement. Il va s'élancer dans quelques instants. Jonas Vingegaard qui dans 7 secondes, 6 secondes, 5 secondes s'élancera lui aussi pour tenter de conserver son maillot jaune.
2-1, c'est parti pour Jonas Vingegaard.
16 secondes de mieux pour Vingegaard. Incroyable performance du maillot jaune dans ce début de contre-la-montre. Tadej Pogacar est-il en train de perdre le Tour de France?
On n'a jamais eu un tel écart entre ces deux hommes. C'est un coup énorme aujourd'hui qu'est en train de réaliser Jonas Vingegaard.
34-14, c'est le temps de Pogacar qui fait mieux que Wout van Aert pour 1 minute 13. C'est dire si sa performance n'est pas du tout à enterrer, mais elle ne sera que moyenne par rapport à Vingegaard qui s'impose tout de suite avec 1 minute 38 secondes d'avance sur Pogacar. C'est énorme. Pendant plus de 2 semaines, les deux hommes ne se sont pas lâchés d'une semelle. Et là, à quelques jours de l'arrivée sur les Champs-Élysées, Vingegaard est en train de frapper du poing sur la table. Il montre qu'il est le patron, qu'il est l'homme en jaune, qu'il est l'homme qui va remporter sans doute dimanche prochain un deuxième Tour de France d'affilée.
RMC Intégral Tour.
Voilà, performance étonnante, fracassante de Jonas Vingegaard. C'est vrai qu'on est un peu tous sous le choc ce soir, parce que on est un peu déçus, faut bien le dire, parce qu'on espérait que le suspense aille jusqu'au bout, que l'étape reine de demain en direction de Courchevel livre peut-être un début de réponse. Or la réponse, on l'a eu cet après-midi. Jérôme, quel est ton sentiment ce soir, à toi?
J'en sais rien. Honnêtement, j'en sais rien. D'un côté, la performance, c'est incroyable. D'un autre côté, on est obligé de se poser des questions, parce que un tel écart sur Pogacar, qui lui-même met un tel écart à Wout van Aert, je veux dire, on a Pogacar qui met plus d'une minute à Wout van Aert, qui a failli se faire rattraper par Vingegaard. À 20 secondes près, Vingegaard rattrapait Tadej Pogacar. Voilà, la performance, je ne sais pas quoi en penser. Honnêtement, je ne sais pas du tout quoi penser de cette étape aujourd'hui.
Cyril, est-ce que tu en penses un peu plus que Jérôme, qui est un gros geek comme nous tous?
Je peux pas penser plus que Jérôme, ça voudrait dire que je suis plus intelligent que lui.
Ah, mais ça, on le sait, donc n'hésite pas.
Je n'ai pas cette prétention-là.
Tu nous le dis souvent en micro, quand même.
D'autant que je suis sous assistance d'oxygène depuis tout à l'heure. Parce que j'ai quand même aussi du mal à m'en remettre. Et... oui, non, ce qui s'est passé aujourd'hui. On parlait d'un tour historique, tout ce qu'on veut. Ça va être pire que ça, quoi. Non, on n'a pas d'explication
rationnelle.
On peut même pas dire que c'est une défaillance de Pogacar.
Non.
Jérôme l'a dit, quand tu regardes les écarts, les écarts, c'est énorme. Mais quand tu prends Wout van Aert, t'as pas vu la branlée qu'il prend, Wout van Aert? Il est à une 20 de Pogacar, ce qui est normal.
Ouais, mais les deux.
Non, mais là, on est tous dans le mur, là.
Pierre-Yves, ton sentiment, toi ?
À Combloux, il y a un loup. Faire des rimes.
On retrouve le poète.
On croyait qu'il y aurait un ogre et en fait il y a un loup. il y a un loup quelque part. Bah forcément ça nous rappelle ce qui s'est passé à la planche des belles filles où dès la ligne d'arrivée passée par Pogacar, moi j'avais pris un peu une claque et j'avais un peu cassé l'ambiance. Je m'en souviens, Cyril, tu nous avais dit tu nous gâches le plaisir. Là aujourd'hui on a aussi un peu le plaisir gâché.
Mais
ou
alors,
interrogatif.
C'est parce qu'on a. C'est, vous pensez que c'est parce que c'est la déception, parce qu'on imaginait que le suspense allait durer?
Non.
Ou c'est parce que les temps et les performances, la performance de Vingegaard interroge. C'est quoi qui vous surprend et qui vous étonne?
Les deux, Christophe.
Ouais.
Non, moi c'est les écarts uniquement. En fait, je m'en fiche qu'il y en ait un ou l'autre qui. Nous, on se disait oui, ça va jouer dans un mouchoir de poche, 20 secondes, etc. Là, il y a une 38 entre les deux à l'étape. Au final, je m'en fiche. Mais c'est qu'il y ait une 38, moi, qui me choque, je sais pas si c'est le mot, qui m'interpelle en tout cas. S'il y avait eu 45 secondes, ok, Pogacar est pas dans un grand jour, lendemain de journée de repos, blabli, blabla. Là, il y a 1 minute 38 sur le deuxième. Il y a 3 minutes
sur
Van Aert. 2:51 sur
Van Aert.
Il y a 3 minutes sur Van Aert. Enfin, je veux dire, l'écart, il est et c'est 22 km de chrono. C'est pas un chrono de 50 km.
Oui, c'est ça. C'est des écarts d'un chrono de 50 km.
Faut pas oublier ce qu'on expliquait hier en présentant ce chrono et en faisant des comparatifs entre les deux hommes. C'est que ça se jouait à des poignées de secondes, ça se jouait à rien. C'était avantage Pogacar la plupart du temps. Moi, je veux bien qu'on travaille le chrono, et qu'on fasse des efforts. Je veux bien que Pogacar ait fait quelques petites erreurs avec son staff. Mais là, c'est énorme.
Mais on avait dit que Roglic, à la planche des belles filles, avait fait une contre-performance incroyable. Il a perdu le tour. Il fait cinquième à 1 minute 56 sur un chrono qui durait 55 minutes. Si vous rapportez.
Et c'était la planche.
Alors que là, il dure 32 minutes.
Là, il dure 32 minutes. L'écart, il est bien plus haut aujourd'hui que ce qu'il était à la planche des belles filles. Donc la performance est deux fois plus grosse que ce qu'avait fait Pogacar à la planche des belles filles.
Alors, il y a évidemment quelques explications rationnelles, mais. Je pense que ça explique pas tout. Le changement de vélo de Poggi, il y a eu aussi évidemment, on y revient, la fracture au scaphoïde de Pogacar qui est arrivé un petit peu diminué. Il avait connu cette première contre-performance lors de la première étape, mais depuis il nous avait rassuré. Même si depuis 2-3 jours, on sentait qu'il était quand même un petit peu moins costaud de Vingegaard.
L'attitude aussi, la prise de risque quand même de Vingegaard. Ça, pour moi, ça fait partie aussi des éléments.
Oui, il est descendu comme un calu là.
Il a fait, je pense, un des meilleurs temps dans la descente. On n'a bien sûr pas d'intermédiaire dans la descente pure, mais bien sûr que c'est lui qui a fait la meilleure descente.
Mais là, il n'a que 15 secondes d'avance après la descente.
Non, avant la descente, 15 secondes en bas de la descente, on n'a pas. Il y avait de nouveau le bout de plat jusqu'au pied de la côte de Domancy. Oui, tout ça explique des choses. Et je pense aussi que Pogacar, il n'était pas dans son meilleur jour. Dans tous les cas, à la base, ça n'explique pas 1 minute 38 quand même. Oui, il a fait des erreurs. Oui, il a eu une préparation perturbée, mais quand même, je pense pas qu'une minute 38, ça soit qu'une préparation et un manque de prise de risque dans une descente.
Alors, on va écouter les explications de Mauro Gianetti, le manager de la formation UAE, l'équipe de Pogacar, sur ce changement de vélo, alors que Adam Yates, donc coéquipier de Pogacar, lui avait choisi de ne pas changer de vélo. Est-ce qu'ils ont fait une erreur? La réponse de Mauro Gianetti.
On a fait tous les essais, tous les tests, et finalement, c'était un avantage changer de vélo pour Tadej. Ce n'était pas un avantage de changer de vélo pour Adam Yates, et c'est ça qu'on a fait comme stratégie, parce qu'à la fin, c'était ça le meilleur choix pour les deux. Donc, parce que chacun, il a une réponse différente sur le vélo de chrono et le vélo d'entraînement. Donc, probablement, on a vu les deux gars de Jumbo, ils n'ont pas changé de vélo. C'est parce que peut-être ils ont une autre adaptation au vélo de contre-la-montre.
Voilà, Mauro Gianetti, Cyril, un petit mot là-dessus. Évidemment, ça explique pas complètement les 1 minute 38, mais il y a quand même eu des erreurs faites par une équipe qui avait justement l'habitude de ne pas en commettre beaucoup, même si l'année dernière, il s'était fait avoir dans l'étape du Grano. Mais enfin, c'est quand même le top des tops des équipes.
Attends, il est gentil, Gianetti, mais ne pas reconnaître une erreur, c'est pas valorisant, quoi. Oui, erreur, il y a eu, puisqu'on l'a vu tout au long, on a quand même les images qui sont là. On peut considérer que tu as en gros entre 12 et 15 secondes de perte sur le changement de vélo. Mais après, avec son vélo normal, sur les portions à plus de 25 et à plus de 30 à l'heure, Pogacar, il est arrêté. Il est arrêté. Et moi, je pense que le changement de vélo leur a coûté au moins une trentaine de secondes. Entre un coureur bien profilé, je parle même pas de la montée, hein. Mais quand on prend tous les chronos intermédiaires ou ceux qu'on a pu faire, ou moi que j'ai pu faire, vélo de contre-la-montre ou vélo de route, dans les portions à 10%, t'allais pas plus vite.
Il allait même moins vite. C'est là où il aurait dû gagner du temps, mais il a perdu du temps.
Mais pas que lui.
Non, pas que lui.
Tous les autres avec leur vélo de route.
Même si on enlève les 10 ou 15 secondes du changement de vélo, Vingegaard a mis quand même 31 ou 32 secondes uniquement dans la montée à Pogacar. Allez, on lui enlève 15 secondes, il lui a quand même mis 15 secondes dans une partie où, en théorie, avec un vélo de route,
ouais, il aurait dû compenser.
Quand il arrive au deuxième temps intermédiaire, il a 31 secondes de retard. Derrière, au troisième, il a 1 minute 05. Donc il a encore reperdu.
Ok, en haut de la bosse.
En haut de la bosse. Donc il a perdu 34 secondes précisément. Et derrière, il perd encore, puisqu'il arrive à 33 secondes encore.
Il n'y a même pas à discuter de l'erreur. Elle est mathématique.
Mais ce qui est fou, Cyril, c'est qu'en ayant justement les chronos des différents coureurs qui s'étaient lancés avant, ils aient quand même choisi de conserver cette stratégie.
Mais c'est là où je comprends pas.
Mais c'est ça, tu t'en rappelles au moment où on a l'interview de Jannetty avant le départ de Pogacar, il dit oui, il va faire un changement de vélo. Et toi, tu lui dis, il nous bluffe, il nous raconte n'importe quoi, il y aura pas de changement de vélo. Et finalement, c'était la vérité. Alors que tout t'indiquait que c'était une bêtise de faire ça.
Et en plus, Cyril, nous, on croit que finalement, il va pas changer de vélo parce qu'il commence à monter. Ouais. Et à ce moment-là, il le fait au mauvais moment.
Ouais.
Non, mais là, ils ont faux partout. Et au minimum, ça coûte 30 secondes. Point.
Ouais. Oui.
Mais après, est-ce qu'ils n'auraient pas dû changer la stratégie en cours de route, finalement? Quand et tu oui, vois qu'au pied, tu as une trentaine de secondes de retard, est-ce que tu dis, OK, ça vaut la peine de changer de vélo, repère 15 secondes, etc.,
raison,
couper dans le rythme? Ils auraient très bien pu dire, allez, tu as 30 secondes, continue.
Non, on ne change pas, on assure comme ça.
Voilà.
C'est clair.
À part que leur vélo fasse 3 kilos de plus que le vélo de route, ce qui ne doit pas être le cas, je vois pas pourquoi ils ont changé de vélo. Et je vous l'ai dit, hein, hier, je l'ai dit dans l'émission de 19h à 20h, ou encore ce matin sur la moto, personnellement, j'aurais dans tous les cas pas changé de vélo aujourd'hui. Et je comprends pas qu'ils aient fait ça. Ils doivent avoir leur raison. Ils disent encore qu'ils ont pas fait d'erreur. Pogacar le dit aussi, c'était ce qu'il fallait que je fasse. Alors, faudrait qu'ils nous expliquent pourquoi ils sont aussi sûrs de leur choix.
Ouais, très bien. On continue évidemment de débattre sur la performance étonnante.
Je rigole, Christophe, parce que s'ils ont raison,
oui.
Ça veut dire que s'il avait gardé son vélo, il serait pas une 38, il serait à 2:30 ce soir.
Ben, peut-être. Bon, bref, allez, on continue d'évoquer cette performance surréaliste de la part de Jonas Vingegaard, parce que ce soir, évidemment, les rumeurs bruissent, comme souvent, après une performance comme ça. On va écouter les réactions des uns et des autres, les tweets aussi, hein, dans un instant avec toi. Tu t'es amusé à compulser un petit peu tout ça.
C'est amusant.
Il y a des choses étonnantes. Allez, à tout de suite, c'est l'After Tour en direct de Combloux. On est ensemble jusqu'à 20h.
RMC, l'After Tour.
Christophe Cessieux.
Tour en direct de Combloux au terme de la 16e étape du Tour de France, ce chrono de 22 km. On espérait, on croyait tous que les différences seraient minimes ce soir et que le suspense serait conservé avant l'étape de demain, l'étape Rennes dont on parlera tout à l'heure, et avant l'étape de samedi où on espérait aussi, peut-être pourquoi pas, que ça se jouerait sur les Champs-Élysées. A priori, ce ne sera pas le cas après la performance exceptionnelle, stupéfiante de Jonas Vingegaard. Alors évidemment, ce soir, on est déçus, et surtout les rumeurs habituelles lors de toute performance exceptionnel d'un coureur sur le Tour réapparaissent. Est-ce que vous sentez, je l'ai senti à vos réponses tout à l'heure, il y a quand même un malaise, il y a un vrai malaise qui s'instaure ce soir. Depuis quelques jours, ça a commencé à sortir. C'est vrai que la domination écrasante des deux géants sur le reste du peloton était... voilà, poser question. Mais là, celle d'encore de Vingegaard qui met une 38 au meilleur coureur de la planète. J'hésite pas à le dire. Pogacar est un garçon qui a été étincelant depuis le début de la saison, même s'il y a eu cette blessure. Voilà, là, on comprend pas, quoi.
Bah, non. Oui, là, on sent un malaise s'installer, c'est clair. Pourtant, je déteste parler de ça quand il n'y a pas de.
Je sais. Oui,
de preuves.
C'est la première fois. C'est la première fois dans l'émission que je te sens. déstabilisé.
Ouais, je suis déstabilisé. C'est la première fois que je me dis merde, putain, il y a peut-être quelque chose. Je sais pas. Je parle même pas de dopage. Peut-être il y a un autre truc qu'ils ont légal. Je sais pas, un truc que les autres équipes n'ont pas. Je sais pas. Je parle pas d'un moteur. J'en sais rien du tout. Je suis comme tout le monde. Je sais rien du tout. Mais pour la première fois, la performance m'interpelle vraiment, quoi.
Ouais, ouais, c'est vrai. Cyril, toi aussi, tu as toujours défendu le vélo et tu as envie de le défendre aussi ce soir, où tu te dis que là, on est peut-être à la veille d'un nouveau tremblement de terre, d'un nouveau séisme dans le cyclisme.
Non, moi, je ne pense pas. Il suffit de regarder les choses au fil des années et on s'aperçoit qu'on a toujours un moment, un quelqu'un qui arrive et qui est au-dessus, et c'est pas pour ça qu'il finit en prison avec 20 ans de prison. Pour dopage, parce que c'est de ça, vous avez peur de parler du terme. Moi, je dis une chose, c'est que si il y a dopage, c'est pas le coureur qui est responsable, c'est pas son équipe, c'est la FLD et l'AMA. Mm-hmm. Il faut être sérieux. On est le sport le plus contrôlé. S'il passe au travers, c'est la compétence de la FLD et c'est la compétence de l'AMA et de l'Union Cycliste Internationale et des fédérations internationales. Vous vous rendez compte? Tous les tests que font les coureurs, tous les prélèvements qu'ils ont à tous les niveaux, biologiques, physiologiques, etc. Donc, si quelqu'un arrive à tricher, c'est de la responsabilité des instances antidopage sur le plan mondial qui ne sont pas compétentes pour trouver. Bon, arrêtons de tirer sur les coureurs en fonction de leur performance, car vous allez le faire dans les 1000 ans qui viennent. Mm-hmm. Parce que vous aurez toujours, à un moment, quelqu'un qui va arriver et qui va avoir des performances supérieures. Le problème, c'est que nous, dans le sport cycliste, on se tire des balles dans le pied en permanence, car c'est le milieu même qui se tire des balles. Ah, il m'a dominé. C'est-à-dire qu'on va expliquer qu'on a été battu parce que l'autre est dopé. Et c'est à l'intérieur même. Est-ce que vous voyez, par exemple, dans le football...
C'est pas Pogacar qui dit ça, ce soir.
Non, c'est pas Pogacar qui le dit. Mais c'est nous qui le disons, et on fait partie du milieu. Bon, prenez dans le foot. Moi, je sais pas, t'as l'équipe de Brest qui joue contre le PSG. Ils sont battus 4-0. Ah ben oui, mais vous comprenez, c'est le foot à deux vitesses. Vous comprenez, Mbappé, il est capable de courir 4 fois 80 mètres à la même vitesse à 10 secondes au 100 mètres. Et puis, t'as Neymar qui te fait tout, alors qu'on sait très bien qu'il se couche à 5 heures du matin. Qu'est-ce qu'ils prennent, quoi? Ben, le football, ça, il le fait pas. Il y a tellement de milliards aussi derrière. Bon, mais nous, c'est nous qui sommes nos propres... qui nous envoyons à la tombe. Pourquoi voulez-vous remettre en cause une performance si les instances antidopage à aucun moment sont capables de maîtriser? Là, moi, il y a un moment. Alors, interrogeons. J'ai vu, c'était dans West France hier, où il y avait un article du patron de la FLD. Bon, ça fait trois quarts de page.
De l'OCLASP. Commandant de l'OCLASP, le général Sylvain Noyau. On parle de la même interview.
Dans West France, oui, hier ou avant-hier.
Bon, la parole se libère un peu. La parole se libère peu dans le milieu du sport. C'est le titre de l'article.
Mmh. Ouais. Donc, alors, moi, je veux bien, mais c'est eux les responsables du dopage. S'ils sont pas capables de le juguler.
Mais on sait bien, c'est vrai que les contrôles antidopage n'ont jamais déniché les gros scandales du vélo. Hein.
Sauf que aujourd'hui. L'ensemble des protocoles.
Oui, je sais bien, je sais bien.
Mais... Alors, ça veut dire que... Parce qu'aujourd'hui, un coureur seul ne peut pas se doper. Mmh. Il se fait planter tout de suite. Ça veut dire qu'il y a, à ce moment-là, des laboratoires qui sont plus forts que les laboratoires de recherche, qui sont à la solde ou qui sont payés par les équipes.
Eh bien, Cyril, dans ce même article très intéressant, la question est... Il y a très peu de contrôles positifs ces derniers temps. Le sport de haut niveau est propre? Point d'interrogation. Le responsable de l'OCLASP répond, si on croit les résultats, oui. Puis il rigole. Mais je pense que non. Il y a encore des sportifs qui ne sont pas propres, avec des systèmes organisés derrière.
Ben oui, mais c'est évident. Donc à ce moment-là, il faut aller dans les équipes, et y compris, pour moi, les équipes qui ont le plus de capacité à pouvoir mettre en place des protocoles qui ne permettraient pas d'être pris, sont quand même les équipes qui sont sponsorisées par des États. Un partenaire, un sponsor, comment peut-il arriver à un État, c'est beaucoup plus facile. Je sais que je vais peut-être que ma maison va brûler demain.
Tu vas avoir un contrat sur ta tête, hein, fais gaffe. Hein.
Vous savez que c'est pas faux. Vous savez que c'est pas faux. On peut remonter sur certaines affaires. Hein.
Comme Cyril le disait, c'est vrai que le monde cycliste, le milieu cycliste s'interroge ce soir. Les tweets des uns et des autres, les réactions, tu as compulsé un petit peu tout ça. Donne-nous un peu le fruit de ta réflexion et de toutes ces réflexions.
On va aller un peu dans tous les milieux. Alors on reste dans ce que tu appelles le milieu, Cyril, avec quelqu'un qui connaît très bien la question du dopage. C'est Michael Rasmussen, dit Chicken, qui avait été expulsé du Tour et qui dit je ne me souviens pas d'un chrono où le vainqueur a mis 4 secondes 5 au kilomètre au deuxième. Même pas Indurain, même pas Armstrong, personne. Lilian Calmejane, qui est dans le peloton. Data pour le fun, 32e du contre-la-montre du Tour de France à 5 minutes de Jonas, presque 6 watts par kilo normalisé. Bon là c'est au niveau des chiffres. Incroyable démonstration, même ASO avait prévu un itinéraire le plus rapide, 3 minutes plus lent. Wout Van Aert. Et quand même dans l'équipe de Jonas Vingegaard. Je suis le premier des gens normaux. C'est amusant de lire entre les lignes quand même les déclarations. Rémi Cavagna, c'est pas lui qui il l'a dit au moment de son arrivée, qui est quand même un expert du chrono et qui est champion de France de l'exercice, qui termine 6e, donc très belle performance. Il en était très satisfait et il pensait lui perdre 45 secondes ou une minute. Il est à 3 minutes 06. Thierry Braillard, ancien secrétaire d'État chargé des sports. Le moment pour moi le plus gênant de ce tour. Personne ne peut trouver cela normal à ce niveau, malgré la nutrition, malgré le matériel, malgré tout ce que l'on veut. Et je finis par Jonas Vingegaard. Sa déclaration aussi au micro de France Télévisions est amusante. Je ne sais pas comment l'expliquer. J'ai tout de suite senti que j'avais une journée incroyable. J'envoyais des watts très élevés. Même quand j'en gardais sous la pédale, j'ai même cru que mon capteur était cassé.
Voilà les réactions des uns et des autres. J'ai l'impression un peu que c'est le cyclisme, le Tour de France, c'est le jour de la marmotte. C'est un jour qui revient, une histoire sans fin.
Des fois, la marmotte se réveille. On a l'impression qu'aujourd'hui, elle a dormi longtemps. Mais...
Une fois par an, elle se réveille. Et ensuite,
magnifique film, regardez-le, c'est un film formidable.
On va écouter Jonas Vingegaard, évidemment tout sourire. Et il le dit, il a vécu aujourd'hui la plus belle journée de sa vie à vélo.
To be honest, I think there was a moment where there was a lot of crowd because I didn't.
Pour être honnête, vers la fin de l'étape, je n'entendais même plus les messages radio de mon équipe à cause de la foule. J'ai réussi à comprendre certains mots et ça m'a motivé pour bien finir. J'aimerais remercier particulièrement mon directeur sportif, mes coéquipiers, tout le monde. C'est sûrement le meilleur chrono que j'ai pu réaliser jusque-là. Je suis vraiment fier et je savoure ma victoire. Non, le Tour de France n'est pas fini, loin de là. Il reste toujours des étapes difficiles et il faut se tenir prêt pour le combat de demain. Rien n'est encore joué.
Voilà, rien n'est encore joué, nous dit Vingegaard, grand sourire. Évidemment, il a une totale confiance en ses moyens et on comprend parce qu'il a été étincelant aujourd'hui, notamment dans les descentes et dans les montées aussi où il a fait la différence. 1 minute 38, dans un instant, on va écouter la réaction de Tadej Pogacar qui lui aussi croit encore que tout est possible. Je ne sais pas s'il y croit vraiment au fond de sa tête, mais on verra ça et puis on s'intéressera évidemment à l'étape de demain qui devait être l'étape reine de ce Tour de France. Le sera-t-elle encore après la performance de Vingegaard? On annonce tout de même des orages et un vent très fort demain en direction de Courchevel. Vous allez l'entendre tout à l'heure. Pogacar mise désormais là-dessus plus que sur ses jambes. A tout de suite, c'est l'After. On est ensemble jusqu'à 20h.
RMC, l'After Tour.
Christophe Cessieux.
En direct de Combloux, au terme de la 16e étape du Tour de France, remportée donc, et de quelle manière, par Jonas Vingegaard, qui a tout simplement écrasé le Tour de France ce soir, 1 minute 38 d'avance sur Tadej Pogacar, cela en à peine 22 kilomètres. Alors on a évoqué les soupçons qui ne manquent pas d'apparaître ce soir, et les petites phrases évidemment des uns et des autres.
Ouais. Assassine ou suspicieuse.
Suspicieuse, exactement. On va maintenant écouter le premier des battus, même s'il a battu la quasi-totalité du peloton aujourd'hui, en terminant deuxième avec plus d'une minute dix d'avance sur Van Aert. C'est donc Tadej Pogacar qui a livré un chrono de référence, hein, je le disais, deuxième à 1:38, largement devant les autres. Tadej Pogacar, groggy quand même, hein, derrière la ligne d'arrivée où sa fiancée l'attendait. Le sourire a disparu de son visage. Comment explique-t-il cet écart? Sa réponse.
Si je dois être honnête avec vous, je ne me sentais pas au maximum de mes capacités aujourd'hui, surtout dans la seconde partie de l'étape. Je pensais avoir quand même réalisé une bonne étape, j'espérais être maillot jaune aujourd'hui, mais les prochains jours vont être très intéressants. Il y a deux grosses étapes qui arrivent, tout le monde peut avoir des mauvais jours, même Jonas Vingegaard. Si la journée de demain se déroule comme celle de Marie Blanche, ce sera ma chance, à moi de la saisir.
Voilà, il ne dit pas, on n'a pas choisi le bon extrait, mais il explique que demain, il compte sur la pluie et il compte sur le vent pour espérer faire les écarts. C'est-à-dire qu'il est prêt à tout quand même, encore.
Bah, de toute façon, il ne va pas se contenter de terminer deuxième à 1 minute 48 à Paris. Lui, il va tout tenter. Il va tenter. Est-ce qu'ils vont se servir d'Adam Yates, qui est remonté à la troisième place du classement général, pour tenter des coups de loin, lui revenir, etc. Les formats habituels, on verra, mais en tout cas, il va tenter. Et c'est vrai que demain, alors pour l'instant, c'est pas. J'ai regardé un peu
Jérôme,
la météo.
Adam Yates, il est à 9 minutes.
Non, pas pour renverser Vingegaard, mais le mettre à l'avant, lui revient sur lui, etc. Sert de point de relais, comme on en parle souvent. La météo, oui, ils annoncent moins chaud et puis peut-être des averses. Alors en montagne, on ne sait jamais. Des fois, on peut passer au travers ou prendre un très gros orage. Mais en tout cas, Pogacar, il va tenter. Et il va tenter. Moi, je pense qu'il doit foutre le bordel dès qu'il peut, même loin de l'arrivée. De toute façon, aujourd'hui, ce soir, il a perdu le tour. Donc, il le perd avec 1 minute 30 ou avec 3 minutes, ça va rien changer au final. Donc faut qu'il tente demain et au Markschein samedi.
Il l'a dit très clairement, on va mettre une stratégie en place. Donc voilà, déjà peut-être que en ce moment on discute
côté peut-être un changement de vélo dans la montée d'école. Non
peut-être prendre le vélo de chrono cette fois au pied au pied de la Lose.
Non mais attends, je suis mauvaise langue. Vous êtes gentil. On minimise certaines choses par rapport à d'autres, il y a des réalités, vous savez que moi les faits, ça fait partie de ma base de réflexion. Bon, quand tu fais les erreurs que tu as fait aujourd'hui, comme celles qu'ils ont fait l'an dernier, il y a un moment, il faut se poser des questions sur la compétence de l'encadrement de Pogacar.
Ouais, on s'en est jamais posé jusqu'à maintenant.
Bah, l'an dernier, c'est...
L'erreur est humaine.
Oui, mais non, l'erreur est humaine une fois, mais pas deux fois.
Non, mais ce qu'il y a, si tu fais des erreurs, mais que tu gagnes, tu les remarques pas forcément. Mais quand en face, tu as une équipe qui fait pas d'erreur. Qu'un coureur qui est à peu près du même niveau ou un peu plus fort et qui, eux, courent à la perfection, bah, d'un coup, les erreurs des autres, elles sont flagrantes, finalement.
Mmh. À la pédale, s'il n'y a pas des conditions homériques demain, c'est impossible de reprendre 1 minute 48 ?
Ouais, ça me paraît. après la démonstration à laquelle on vient d'assister aujourd'hui, ça me paraît compliqué qu'ils reprennent un peu de temps sur les deux étapes dures qui restent. Oui, pourquoi pas. 1 minute 38, là on vivrait de nouveau un truc complètement incroyable. Ouais, ça me paraît compliqué vu les jambes de Vingegaard qui perdent un peu de temps éventuellement, qui perdent une 48.
Non, plus la motivation.
Ouais, le mental, le mental de Vingy va être...
Là il est sur coussin d'air, il part demain, il sait que sauf s'il tombe, il a gagné quoi.
Donc il va même pas prendre de risque, il va faire sans doute le sparadrap comme il l'a fait.
Bah voilà. De toute façon,
il a plus
que ça à faire. Moi je suis à la place de Jumbo-Visma, je laisse des échappées, elles peuvent prendre 10-15 minutes, je m'en fous, on fait un train derrière et puis après on regarde ce que fait Pogacar, point barre, c'est tout.
C'est ce qu'a dit Marc Madiot d'ailleurs. Ouais. Également.
Alors, Mauro Gianetti, il en pense quoi justement? Le manager, la formation UAE, quelle est la condition pour renverser le tour demain et samedi? La réponse de Mauro Gianetti.
La réalité, c'est ça. Si tu as les jambes, tu peux faire quelque chose. Si tu n'as pas les jambes, tu suis. Hein. Non, c'est ce qu'on veut dire. Et c'est tellement difficile. C'est une étape. Il faut justement les jambes. Mais sincèrement, j'étais coureur. Je ne pense pas qu'il faut des autres choses. Ce n'est pas avec la morale qu'on fait ça. On parle de quelques secondes, non? Et donc, finalement, ce n'est pas la moto de la Jouplaine qui va décider ce tour. Quoi.
Voilà.
Oui, il fait référence aux motos. Voilà, c'est pas les motos qui vont.
Oui, c'est vrai que le problème des motos, des Cyril, il y a plus. C'est oublié tout ça. Hein.
Oui, on va parler d'autre chose.
Ça n'aura pas faussé le tour. Ça n'aura pas complètement faussé le tour. C'est peut-être autre chose qui l'a faussé. On reviendra évidemment dans quelques minutes sur l'étape de demain. Mais d'abord, on va s'intéresser au chrono des autres coureurs. On rappelle le classement des autres. Des humains, en quelque sorte.
Il y en avait d'autres au départ.
Oui, on dirait pas.
Oui, tout à fait. Wout van Aert, qui est le premier des gens normaux, a-t-il dit, des coureurs normaux, qui finit troisième.
Et pourtant, à certains moments, on peut se penser, la question s'est posée sur Wout van Aert.
Oui. lui avait déjà gagné deux chronos dans le Tour. Il pensait bien à un moment en gagner un troisième, mais c'était avant le passage de Tadej Pogacar, lui aussi vainqueur de deux chronos d'ailleurs sur le Tour de France. Il n'y en aura pas un troisième, donc c'est Jonas Vingegaard qui s'impose. Et puis du côté des Français, donc Rémi Cavagna, belle performance, qui termine sixième à 3 minutes 06. David Gaudu, dixième à 3 minutes 31. Et puis si on va un petit peu plus loin, Pierre Latour qui fait une belle performance dans le top 20, il est 17e à 3 minutes 57. Et beaucoup plus loin, Julien Alaphilippe, 26e à 4 minutes 49. Et Valentin Madouas, 28e à 4,52. Lilian Calmejane et Thibaut Pinot sont 32e et 33e à un petit peu plus de 5 minutes.
Et il y a un Français qui est arrivé hors délai quand même, il faut le faire sur 22 km.
Bah ça, c'est la faute de Vingy.
Alors pas complètement, il est tombé dans le premier virage, Alexis Renard, il est arrivé hors délai pour une seconde. On s'est demandé s'il allait être repêché ou pas. Le sujet est clos. Il a une fracture du coude, donc il repartira pas demain, malheureusement, Alexis Renard. Grand coup de chapeau à lui. Il a quand même terminé le chrono avec une fracture du coude. C'est pour dire à quel point les cyclistes sont des guerriers quand même. Donc peu importe les délais hors délai ou pas, il ne reprendra pas le départ demain.
Il me vient cette question. Vous savez, quand au début du tour, on disait ouais, quand même, c'est exagéré. Un seul chrono de 22 km, il n'y aura pas d'écart.
Je te vois venir.
Je pense que l'année prochaine, il faut réduire encore le chrono à peut-être 11 km, non ?
Même un Thibaut Pinot a dit hier ou avant-hier qu'il fallait au moins deux chronos.
C'était avant ce soir, Jérôme.
Mais ça changerait rien, ça changerait rien. Il faut rajouter des chronos.
Il faut mettre juste un prologue à Florence.
Mais pourquoi pas le chrono l'avant-dernier jour, comme ça, ça aurait été le cas.
Même le dernier jour.
L'année prochaine.
On va pas recommencer la construction du Tour de France. On n'en est pas les maîtres.
Non, mais là, franchement, s'il y a une personne, en l'occurrence, il y en avait deux, parce que Pogacar et Vingegaard ont dit tous les deux qu'il y aurait des écarts. J'étais le premier à pas y croire. Et puis finalement, une 38. Moi, je me suis dit, s'il y a 30 secondes entre les deux, ça sera le bout du monde. Il y avait une minute 38. Non, il faut plus de chronos dans tous les cas. Un chrono plus plat, un chrono montagneux, et voilà. Mais ça fait partie du vélo.
Et un chrono 22... en descente.
22
ça fait
kilomètres.
Partie du vélo, je suis d'accord avec toi, mais ça casse le suspense. Mais regarde, on était sur un nuage, là. On rêvait d'avoir le suspense jusqu'au bout.
Ça se trouve,
là, ce soir, il n'y a plus de suspense.
Si on avait une étape aujourd'hui, Pogacar était à 4 minutes. Ça aurait peut-être été encore pire. On n'en sait rien. On n'en sait rien. Non, le chrono fait partie du vélo. 22 km sur 3500 km en juillet, c'est pas assez. Je suis désolé.
Okay.
Il faut en rajouter.
On sent le spécialiste du chrono qui adore cet exercice. Et Cyril, je sais, est d'accord avec toi. On va s'intéresser donc aux autres, aux etc. Adam Yates, premier des etc., qui récupère donc la troisième place au classement avec seulement 5 secondes d'avance sur Rodriguez. L'UAE doit-elle tenter demain de garder cette position ou de tout jouer sur Poggi 2 et 3? Ça serait déjà pas mal pour l'UAE, non?
2 et 3
Il rigole.
C'est le prix de la consolation.
Non, ils doivent essayer. C'est pareil. Alors oui, Adam Yates, il a jamais fait podium au Tour. Il est suivi de près par Rodriguez, qui est seulement 5 secondes derrière lui. Mais ils vont pas protéger Adam Yates pour une troisième place. Et puis Pogacar, c'est de toute façon pas sa mentalité. Ils vont forcément tenter des choses.
Oui, mais il est co-leader, Adam Yates. C'est ce qu'on lui disait, en début de tour.
Oui, on nous a dit beaucoup de choses en début de tour. Pour moi, en tant que spectateur, si UAE font 2 et 3, c'est une défaite, même si c'est incroyable de mettre deux coureurs sur le podium du Tour, mais c'est une défaite. C'est peut-être la plus grosse armada sur le papier avec Jumbo. Ils sont soutenus par un État, ils ont un budget quasiment illimité, ils ont peut-être le meilleur coureur du monde ou le deuxième meilleur avec Vingegaard. Faire 2 et 3, ça sera un échec.
UAE, c'est un peu le PSG du cyclisme, c'est-à-dire soutenu par un État et qui n'arrive pas à gagner
Ils ont quand même gagné deux fois déjà avec Pogacar.
Oui, c'est vrai.
Pas oublier que Pogacar, c'est quand même deux victoires, deuxième l'année dernière, peut-être encore deuxième cette année.
Mais s'il perd encore une fois cette année.
Vivement 2024. Deux points partout. Et voilà, il y aura la belle.
Balle au centre. Ouais. On verra ça. Mais c'est vrai qu'on est bien parti pour ça. Côté français, on notera, et Pierre-Yves l'a rappelé, la très belle perte de Rémi Cavagna, qui, à l'issue de sa course, disait je pense qu'ils vont faire une minute de mieux que moi, les
45 secondes, une minute.
Ils ont fait 3 minutes de mieux que lui.
Mais s'il connaît rien en vélo,
il est pas bon Cavagna.
Mais tu sais qu'il connaît rien au vélo.
Je vais terminer entre 10e et 15e, il finit 6e.
Bah oui.
Franchement,
finit 6e en perdant 3 minutes
0. Je pense qu'on peut l'engager dans l'équipe des paris RMC, Rémi Cavagna, hein, voilà.
Non mais il connaît rien en vélo le jeune là.
Mais oui.
Bon, en tout cas,
retirez-lui son maillot de champion de France du chrono.
Franchement, moi il m'a épaté quand même Cyril sur un tracé qui était pas vraiment propice à ses qualités de rouleur là, il s'est vraiment bien défendu aujourd'hui hein.
Il a fait le contre-la-montre en le faisant consciencieusement par rapport à ses qualités, par rapport au parcours. Il fait le meilleur contre-la-montre possible qu'il pouvait faire sur ce type de parcours et il confirme son maillot de champion de France et c'est très bien. Et puis au-dessus de lui, il a Simon Yates, Peyo Bilbao, Wout van Aert, Pogacar et Vingegaard. Bon, c'est quand même une performance exceptionnelle sur ce type de parcours, je dis bien, parce que c'est pas le parcours sur lequel il est le plus performant.
C'est presque une demi-surprise, parce que rappelez-vous, à la planche des belles filles,
sixième également.
Sixième,
ouais, tu as raison.
Déjà sur un chrono difficile, il était déjà champion de France, et finalement, il est surprenant, et pour l'avoir suivi, c'était vraiment beau à voir, c'était impressionnant.
T'es régalé derrière.
Ouais, je me suis vraiment.
J'aurais bien voulu que l'étape, elle fasse 55
km. Ah, bah là,
hein.
Un chrono de 55 000, ouais, ça aurait été la régalade tout le long, non? Donc, je pense que ça va aussi.
Jérôme, t'imaginais, en le suivant, à la vitesse où il allait, la puissance qu'il dégageait, la sérénité qu'il avait, qu'il fallait toi avec ta moto t'en prendre aussi 3 minutes 6.
Ouais, non, j'imaginais pas. Mais ouais, honnêtement, je pensais qu'il allait faire autour de la 10e place, je le voyais pas si haut, mais il y a des coureurs qui sont passés au travers hein. Aujourd'hui, je pensais à un Stefan Kung par exemple, sur le papier, je l'aurais mis devant. Il a pris un coup de chaud, il était pas très bien aujourd'hui et voilà, Rémi lui a répondu présent encore une fois.
Et puis le meilleur français au classement général reste bien ce soir David Godu, 10e de l'étape. Là aussi belle performance de David qui conserve son rang de 9e au classement général, le Breton très satisfait. De performance, on l'écoute.
J'avais des bonnes sensations, donc je voulais faire un bon chrono. Voilà, mon chrono de Dauphiné avait été complètement raté. J'avais peur de, malgré tout, de buter sur la partie juste avant de Mancier. Donc, non, je pense que j'ai bien géré. Et après, je pense que voilà, dans la tête, à la fin, la foule a fait que j'ai pu tout donner. Et un grand merci à tous les spectateurs qui sont venus nous supporter. Le vélo est un sport populaire, ça fait plaisir à voir, donc merci à tous les spectateurs d'être venus. J'avais vu déjà hier que j'avais déjà bien récupéré et que j'avais des bonnes sensations, donc voilà, ce matin sur la Rocco, on y allait vraiment tranquille, et voilà, c'est un bon chrono, faudra répondre présent demain, c'est l'étape Rennes.
C'est l'étape Rennes, nous dit David Godu. Comme souvent, le Breton finit mieux son tour qu'il ne le débute. C'est encore le cas cette année. Qu'est-ce qu'il peut espérer encore dans ce tour? Gagner quoi? Une, deux, trois places? Est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est mathématiquement possible, Jérôme?
Mathématiquement, attends, je vais utiliser la formule. Tant qu'on n'a pas passé la ligne, faisable.
Pas toi, non, pas toi.
Tout est faisable. Mais bon, il y a presque 4 minutes d'écart avec Simon Yates, qui a aussi fait un bon chrono, qui a l'air d'aller très très bien. Par contre, ce qui est vraiment surprenant avec David, c'est qu'aujourd'hui, le chrono fait 22 km au premier point intermédiaire. Il est pas très loin. Il est à 20 secondes. Donc ça veut bien dire qu'il arrive à démarrer, qu'il arrive à bien partir.
Alors que étapes en ligne, il
c'est ça. Sur les étapes pour 150 km, il a besoin de 60 km. Avant de se sentir bien, je sais pas, peut-être qu'il doit faire le même protocole d'échauffement qu'il utilise au chrono avant de partir sur une course en ligne. Non, mais en tout cas, franchement, 10e du chrono aujourd'hui. Alors oui, le classement, ça fait comme en 2016 hein, quand on avait eu l'étape Salanche-Megève. On a des coureurs qu'on n'a pas l'habitude de voir si haut sur des chronos. Bilbao 4e, Simon Yates 5e, Adam Yates 7e, et puis bien sûr David Godu 10e. C'était un chrono qui lui convenait bien aussi. Et c'est marrant parce que c'est le seul qui dit j'ai eu peur de buter dans la partie avant Domancy. Tout le monde avait peur de buter dans Domancy. Lui, il avait peur de buter sur le plat juste avant.
Voilà, il faut David. Lui dire que sur le plat, on peut pas buter.
Oui, on peut.
Ouais. Bon, je plaisante.
Bon, allez, on continue évidemment l'after dans un instant. On va évoquer l'étape de demain. Celle qui était considérée comme l'étape Rennes. Le sera-t-elle cette étape Rennes entre Saint-Gervais et Courchevel? On en parle dans un instant. Et puis les paris évidemment à venir avec Yoann Bredov qui va nous rejoindre dans quelques minutes.
RMC, l'after tour.
Christophe Cessieux.
Jusqu'à 20h, l'after tour en direct de Combloux ce soir au terme de la 16e étape du Tour de France, remportée, je vous le rappelle, par un certain Jonas Vingegaard. Maillot jaune avec désormais 1 minute 48 d'avance à l'entame de la plus belle étape sur le papier de ce Tour de France. 17e étape donc demain entre Saint-Gervais et Courchevel. On quitte la Haute-Savoie pour la Savoie, mais pour y arriver, il va falloir quand même se coltiner.
Il va falloir grimper.
Sacré truc, mon Jérôme.
Ouais, l'avant-dernière étape, hein, l'avant-dernière grosse étape de montagne, pardon, et bien sûr, comme tu l'as dit, un gros chantier en vue. Quatre cols, dont les très difficiles, un col des Saisies, Cormet de Roseland, et bien sûr, la terrible montée au col de la Lauze. Col de la Lauze qui sera le plus haut sommet de ce Tour de France, 2304 mètres d'altitude. Et surtout, ces cinq derniers kilomètres avec 10% de pente moyenne, des passages à 24%. Rappelez-vous, un certain Miguel Angel Lopez avait gagné là-bas. Mais contrairement à 2020, l'arrivée, elle sera pas en haut. Faudra redescendre à 7 kilomètres plus loin. Et surtout, une dernière rampe pour aller chercher la ligne d'arrivée à l'altiport de Courchevel avec de nouveau des passages à 18%. On l'a dit, une météo qui s'annonce capricieuse. Un Pogacar revanchard. Peut-être une étape explosive.
Une étape de légende.
Peut-être.
Peut-être.
J'y crois.
T'y crois?
Ouais, j'y
vraiment,
crois.
Vraiment. Au fond de toi-même, tu
ouais,
y crois.
Ouais, j'y crois. Parce que, alors,
oui.
Peut-être pas de légende pour gagner l'étape. Pour, parce que voilà, j'imagine qu'il y aura.
Plus pour le classement général, mais peut-être pour.
Mais ça
pour
va pétarader de partout.
Ouais. C'est,
voilà, si je suis à la place du
Havre. C'est dans l'esprit de Pogacar, en plus.
Mais c'est dans son esprit. Il n'y a plus rien à perdre. Vas-y, fais-toi plaisir. Adam Yates, fais-toi plaisir. Allez-y, foutez-en partout et on regardera ouais. ce qui se passe à
ouais,
Courchevel.
Écoutez ce que disait Mauro Giannitti tout à l'heure. Il faut les gens pour ça.
Mais là, Mauro, il a complètement raison. Nous, on veut du spectacle.
Ouais.
Mais si t'as plus rien dans le sac, t'as plus rien dans le sac. Hein, tu ouais. peux rien faire.
Oui, oui. D'autant Cyril que Poggi ce soir a pris quand même un drôle de coup sur la tête. Hein. Il doit être un peu abattu, même s'il a gardé sa contenance tout à l'heure. Mais ça fait mal de prendre une minute 38. Nous, on se pose des questions. Tu crois pas qu'il s'en pose lui aussi ce soir des questions, Tadej?
Oui, et pas obligatoirement les mêmes que les nôtres.
Ils s'en posent peut-être plus du tout d'ailleurs.
Ouais.
Je pense que ce soir, oui, comme tu dis, il s'en pose plus du tout. Il sait qu'il est battu et qu'il va faire deux du tour.
Mmh. Ouais. Tu penses que voilà, dans sa tête, est-ce que tu peux comment faire pour le remotiver pour l'étape de demain? On sait que c'est un garçon qui a beaucoup de flamme, qui ne s'avoue jamais vaincu, mais bon, là pour. C'est lancé demain. Tu sais que tu dois te faire le col de la Lauze, que t'as une minute 48, que t'as très peu de chances de renverser le Tour de France. Il faut vraiment être super motivé demain. Hein.
Bon, tu pars dans une bagarre de rue, t'as un mec en face, et toi t'as plus de bras. Tu fais comment?
Tu te sers de tes jambes. Comme en vélo.
Mais là, les films de Monty Python. Jambes sans les bras, ça sert à rien.
Ouais, il va faire comme le chevalier dans les Monty Python qui avait plus de bras. Je sais pas si vous avez vu ce film, mais allez-y, ça vous fait marrer. Ce sera un peu Pogacar demain dans cette étape. On sait que, alors tu le disais, Cyril, il y a quelques jours, dans les étapes avec des cols très très raides, c'est difficile d'attaquer là-dedans. Combien tu disais? 24%?
Il y a des passages dans le col de la Lauze à 24%. Mais rappelez-vous les images de Miguel Angel Lopez.
Mais hier,
2020.
Dans le petit train du Mont Blanc, on n'était même pas à 24%.
C'est ça, il était dans un train. Alors imagine.
Et le train avait du mal.
Imagine.
Hein.
Ouais, mais t'étais dedans, c'est peut-être pour ça qu'il avait du mal. Ouais, des passages à 24%. Et la dernière rampe, hein, on avait eu justement notre zone technique là-bas quand il y avait l'arrivée au col de la Lauze. Rappelez-vous, pour arriver à l'altiport, comme c'est raide, la 18%, c'est pas forcément là où on peut attaquer. 24%, c'est de la survie. On essaye juste de pas péter finalement. Mais
de parculer.
Voilà, de pas reculer, ouais, faudra, bah, ouais, vous avez pas ramassé des piolets en allant au Mont Blanc, ils en auront peut-être besoin demain au col de la Lauze.
Certains vont encore serpenter, hein.
Ouais. Mais, Miguel Angel Lopez, qui avait gagné l'étape, à un moment donné, il serpentait sur la route, alors qu'il était en train de gagner l'étape. C'est complètement dingue. Et là, ils vont mettre les braquettes.
Bon, est-ce que vous pourriez vous poser, parce que là, vous ne l'avez pas posé à aucun moment, moi non plus,
on s'est pas posé
à part il y a 3 secondes, et si demain Pogacar explosait complètement.
Ah, toi tu vois plutôt ça.
C'est possible, hein.
Ouais.
Ah bah oui.
Mais pour moi, il explosera pas sans essayer quelque chose. Donc oui, il peut exploser, mais il
essaiera. Il peut se vider complètement cette nuit, hein.
Ouais.
Quand je veux dire dans la tête,
et
le système endocrinien, n'oubliez pas que c'est le système endocrinien qui gère toute l'énergie que vous pouvez produire. Si là, il fait un burn-out cette nuit, demain, il peut arrêter les deux pieds sur la même pédale. Hein.
Oui.
Pas de malheur.
Et ça peut être aussi. Mais
c'est
un
pas un
peu
problème
collectif.
De malheur, c'est une éventualité.
Ça peut être un peu collectif, et Adam Yates peut aussi trinquer dans cette histoire-là. Pourquoi pas?
Ils peuvent terminer 9 et 10e du tour, c'est ça que vous êtes en train de dire, les deux-là.
Justement,
David Godu peut encore être sur le podium, c'est ça?
Justement, je pense qu'Adam Yates, ça sera l'inverse, parce que lui, il a fait un super chrono, il est dans une autre dynamique. L'étape de dimanche au Bété, il a même attaqué. Donc ça peut redynamiser.
Et faire 3e du tour, pour lui, c'est vachement valorisant, quoi.
Bon, Cyril, si demain, en ouvrant les volets, je vois de la pluie, je t'appelle immédiatement, parce que je sais que ça te rendra joyeux à l'entame de cette...
Je ne suis pas sûr que ça change grand-chose.
Bon, on verra ça. Très bien, allez, tout de suite, les paris, on accueille Johan Bredov dans un instant.
Winamax, le plus important, c'est de gagner.
C'est le moment de parier sur RMC avec Winamax.
Salut mon petit Johan.
Salut les gars, comment vous allez?
Bien, enfin moyen. Ça va quoi.
Il n'y a pas que le vélo dans la vie.
On a perdu.
C'est ça. Vous allez parler.
Ah non, mais ils vont bien parce qu'ils avaient parié Vingegaard les deux là.
Eh oui.
Mais
vous en êtes content de votre pari.
Cette règle de pouvoir voter deux fois le même est inadmissible quand même. J'ai voté le premier, je dois être le seul à gagner, je suis désolé.
Non, pas du tout.
Non, mais ça va aussi, c'est bon.
Mais non, ça va pas du tout, justement, ça ne va pas
du tout. En tout cas, Johan, l'équipe des paris a mis les trois du podium dans les paris. On avait
sur les favoris quand même.
Tu veux une médaille pour ça? Parce qu'aujourd'hui, c'était quand même pas trop compliqué. On verra demain si toute l'équipe des paris est bon.
Ça va être plus dur.
Ça va être plus compliqué demain. Bon, bref, bravo à Jérôme et Pierre-Yves qui vont quitter la queue de
le Tour de France.
Ils vont quitter le Tour de France. Non, ça c'est moi qui quitte le Tour de France ce soir. Hein, vous débrouillez demain sans moi. Les favoris donc pour l'étape de demain, quels sont-ils, mon cher?
On prend les mêmes et on recommence avec Vingegaard qui cette fois est légèrement favori le Danois. C'est 3 la victoire de Vingegaard, 3,50 la victoire de Pogacar et on grimpe dans les cotes avec Adam Yates côté à 15, David Gaudu et Wout Poels côté à 20, Carlos Rodriguez, Félix Gall, Giulio Ciccone, Mikel Landa, Simon Yates, eux, ils sont tous cotés à 25.
Qui est le premier à s'élancer?
C'est Cyril Guimard.
Encore? Évidemment, mon pauvre Cyril. Oui.
Simon Yates.
Ah, coté à 25, Simon Yates, c'est noté.
Ensuite, tu fais un gros chrono aujourd'hui.
Ah oui. Arnaud.
Il n'est pas là avec
lui. Il n'est pas là. Bah, il donnera son pari. Arnaud, Jérôme, c'est à toi.
Je reste troisième avec ma victoire, incroyable. Adam Yates.
Non, tu me l'as piqué.
Adam Yates.
Adam Yates, donc pour Jérôme Coppel. Et Christophe, c'est à toi.
Je ne sais plus, moi, je l'avais bien cherché, je l'avais entouré. Bon, je vais mettre Vingegaard.
Les côtés à 3, Vingegaard. T'as l'air motivé, Christophe, ça fait plaisir.
J'espère qu'il va pas gagner.
T'es un sacré parieur.
Ensuite, c'est à moi parce que j'ai perdu la place de leader au profit de Pierre-Yves. Moi, je veux Tadej Pogacar. J'ai envie d'y croire quand même encore. Je suis jeune, j'ai de l'espoir. C'est comme ça.
C'est bien.
Pierre-Yves, à toi.
Eh bien, moi, je vais parier sur Carlos Rodriguez.
Côté à 25, Carlos Rodriguez. Donc
et voilà. Là, je gagne définitivement ce Tour de France des paris.
Je pense qu'Adam Yates va le laisser partir, Rodriguez.
Ils ne pourront pas le suivre parce qu'Adam Yates va rester avec Tadej.
D'accord.
Félix Gall, c'est une cote pour Félix Gall.
Félix Yates.
Côté à 25, Félix Gall.
Il a fait une très belle montée aujourd'hui quand même. Il a perdu du temps sur un ennui mécanique un dimanche.
Je vais mettre Félix Gall.
Rémi Dilanda aussi, on va tous les faire.
Non, mais je vais mettre Félix Gall parce que j'ai pas du tout envie que Vicky ait gagné.
En fait, finalement, il y a personne qui pense à Thibaut.
Non.
Mais toi?
Oh bon. Pas demain.
Il garde pas tout demain, pour les Vosges.
Le Markstein pour Thibaut. Tiens, je peux déjà donner le pronostic pour le Markstein.
Ce sera peut-être dans les premiers à voter si tu continues à perdre comme ça, Christophe.
Ah, tu m'étonnes.
Et la cote de Bilbao est à combien?
Je vais te la trouver, elle est à 30. Comme Thibaut Pinot d'ailleurs pour demain. La même cote.
Tu veux pas changer?
Non, c'est bon, là, j'en ai marre de changer. J'en ai marre de perdre. De toute façon, je vous aime plus, je vous déteste. Merci, Johan!
Merci à vous.
À demain.
Winamax, le plus important, c'est de gagner.
C'est le moment de parier sur RMC avec Winamax. Les jeux d'argent et de hasard peuvent être dangereux. Perte d'argent, conflits familiaux, addiction. Retrouvez nos conseils sur joueurs-info-service.fr et au 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé.
Bon, les garçons, on va se coucher.
Ouais.
Hein, il faut pas qu'on craque dans la tête. Hein.
On a un petit rendez-vous quand même.
Il y a encore 5 jours à faire. Quoi.
On est invité ce soir. Hein,
donc ne craquez pas, je vous veux demain rendez-vous à 14h.
Voilà, on sera là.
Le moral, ça va remonter, vous allez voir. Hein.
Bien sûr.
Demandez les bonnes potions à notre druide. Et demain, on sera au top.